Kinshasa. Je suis tout à fait...
Moi, c'est André de Mouima au Katanga oriental. J'ai réfuté totalement ces questions.
Moi, c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouveau numéro des Paroles aux auditeurs. C'est toujours un plaisir de vous retrouver pour échanger sur des thèmes liés à la vie nationale. Et aujourd'hui, on va parler de l'apport du secteur minier dans la création d'emplois des jeunes. Comme vous le savez, la 6e édition du Forum économique de Katanga Business Meeting s'est tenue à Kolwezi du 14 au 16 mai 2025. Placée sous le thème « Bâtir notre futur », cette édition a réuni plusieurs entreprises privées et publiques du Lualaba et du Haut-Katanga. Dans son discours de clôture, la gouverneure de province de Lualaba s'est dit convaincue que les résolutions issues de ces échanges de différents salons de cette 6e édition du Katanga Business Meeting marqueront un nouvel élan économique de la province et de tout le pays. Cependant, une certaine opinion, non seulement pense que les résolutions issues de la plupart des forums économiques organisés dans le pays sont loin d'être suivies, mais encore, elles ne donnent pas suffisamment lieu à l'émergence d'une classe moyenne. Et pourtant, selon certains analystes économiques et hommes d'affaires, ces genres de forums devraient également mettre l'accent sur le mécanisme visant à booster un partenariat public-privé en vue de faciliter aux jeunes l'accès à des opportunités d'emploi et aussi la création d'une banque de développement. Que pensez-vous de l'apport du secteur minier dans la création d'emplois des jeunes en RDC? Nous en parlons avec l'honorable Jethro Muyombi, député national et initiateur des projets d'encadrement des jeunes. Honorable, bonjour.
Bonjour, monsieur Arsène.
Voilà, vos réactions sont les bienvenues sur la page Facebook Paroles aux auditeurs. Vous pouvez aussi écrire à l'adresse pays@radiocapi.net ou réagir dans le groupe WhatsApp de Paroles aux auditeurs ou encore intervenir en direct en composant 09-706-80-79. Debs Vita est à la mise en œuvre de ce magazine. Julie Fezabongonda et Gloria Lutula sur la réalisation et la coordination. Nelson Nobila pour l'équipe multimédia au micro. C'est Marcel Gombal à toutes et à tous. C'est sans condition d'écoute de ce nouveau numéro des Paroles aux auditeurs.
Grâce à Internet, la radio d'aujourd'hui s'écoute aussi quand vous êtes disponible et pas seulement en direct. Radiocapi.net, téléchargez et conservez vos émissions préférées. Dialogue entre Congolais, Parole aux auditeurs et Okapi Service. Téléchargez l'émission de votre choix, vous l'écoutez quand vous le souhaitez. Radiocapi.net, la radio en différé à votre service.
Merci de votre fidélité à Radio Okapi, l'Africain de la paix. Merci de nous suivre partout. Vous êtes en République démocratique du Congo. Merci également de nous suivre sur les plateformes digitales de Radio Okapi, à savoir YouTube, X et Facebook. Eh bien, on va parler, je le dis, de l'apport du secteur minier dans la création d'emplois des jeunes. Et comme je l'ai annoncé dans les sommaires de ce magazine, nous en parlons avec l'honorable Jethro Muyombi, il est député national et initiateur de projet d'encadrement des jeunes. Je rappelle le numéro d'appel si vous voulez intervenir en direct, composé 099-716-80-79. Merci d'avoir été nombreux à réagir sur la page Facebook par nos auditeurs, mais aussi dans le groupe WhatsApp des Paroles aux auditeurs par rapport à ce sujet. Nous aurons à lire quelques-unes de vos réactions au cours de ce magazine. Et voilà, d'emblée, cette question, honorable Jethro Muyombi, que vous explique d'abord cette 6e édition du Forum économique Katanga Business Meeting qui s'est tenu à Kolwezi du 14 au 16 mai dernier et avec comme thème « Bâtir notre futur ».
Monsieur Marcel, d'abord il faut dire que le forum n'est pas mauvais. Et nous notons que ça, c'est que ça apporte. Mais ici, parce qu'il est question d'abord de se référer au thème qu'ils ont donné « Bâtir notre futur ». C'est ça la plus grande question. Est-ce que réellement les forums peuvent nous aider à bâtir notre futur? Point d'interrogation. Et lorsque nous voulons parler aussi de la création de l'emploi, parce que on en a entendu, moi je pense que c'est là que se situe la plus grande question. Est-ce que c'est par cette voie-là que nous allons bâtir notre futur? Est-ce que c'est par cette voie-là que nous allons pouvoir générer de l'emploi? Je ne pense pas. C'est dans ces contextes que nous nous situons. J'ai aussi entendu dire que ces forums étaient un signal de confiance pour les investisseurs ou pour le développement de notre pays. Je me suis posé autant de questions, moi je pouvais même répondre pour dire que peut-être non. Le signal serait peut-être proposer des mesures d'aide financière aux entrepreneurs, par exemple, la réduction fiscale, ce serait des mesures, des signaux forts. On peut aussi dire que comme j'ai entendu aussi plaider par les membres de certains acteurs qui étaient en train de plaider pour une gouvernance attractive, je ne pense pas aussi que ce serait un bon endroit pour plaider pour une gouvernance attractive. Et ben c'est dans toutes ces questions-là que nous sommes en train de nous poser. Est-ce que, des fois, nous déversons dans des activités qui nous consomment beaucoup au lieu de nous concentrer à des activités ou à des actions importantes pour de créer de l'emploi, pour faire avancer notre pays?
On le sait, honorable Jethro Muyombi, votre cheval de bataille, c'est surtout la création d'emplois des jeunes. Vous êtes même initiateur de projets d'encadrement des jeunes. On le sait également, les secteurs miniers, c'est un des secteurs qui génère beaucoup de revenus pour le pays. Et on sait qu'il y a beaucoup d'entreprises. Est-ce que vous pensez que, de la manière dont les choses se passent, le secteur minier n'apporte pas suffisamment de l'emploi aux jeunes?
Ça n'apporte pas suffisamment de l'emploi aux jeunes pour le moment. Et vous savez, Monsieur Marcel, nous le savons tous avec vous que pour arriver à matérialiser la création d'emplois, il y a au moins il y a plusieurs thématiques, mais il y a trois importants que les pays qui se sont développés, qui ont vu avoir autant d'emplois, ont peut-être mis en application. Ce seraient ces piliers sur lesquels on devrait se focaliser. C'est par exemple une bonne politique économique favorable à la création de l'emploi. Et lorsqu'on parle de cette bonne politique économique, c'est la réduction fiscale, c'est l'amélioration du cadre réglementaire, c'est-à-dire simplifier les démarches administratives, réduire les charges sur les entreprises, par exemple. De deux, c'est les mesures directes de soutien à l'emploi. Vous savez, lorsqu'on parle de mesures directes de soutien à l'emploi, c'est notamment l'aide financière aux entrepreneurs. C'est avoir des banques qui peuvent accompagner les entrepreneurs. C'est aussi encourager la création de l'emploi local. Aujourd'hui, si nous essayons de jeter un coup d'œil dans notre pays, c'est plus les étrangers qui viennent, d'ailleurs même poche vide, et qui rentrent chez eux très riches et qui commencent à commander. J'étais en train de suivre aujourd'hui une émission où on parlait de nos frères libanais qui peut-être construisent même sur le milieu où il faut pas construire et qui commencent à donner la loi. Donc, combien d'emplois locaux nous avons dans notre pays? Combien de mesures nous avions mises en place? Il y a le troisième socle qui est, par exemple, les numériques aussi, promouvoir le travail à distance aussi. Donc, vous savez, aujourd'hui, les numériques, c'est un secteur aussi qui génère de l'emploi, mais dans notre pays, les niveaux numériques même, par exemple, et si nous posons aussi la question de travail, le télétravail, comme on l'a dit aujourd'hui, c'est encore un problème chez nous parce que ça permet peut-être aux gens de faire 2, 3, 4 choses à la fois. Donc il y a un peu les éléments sur lesquels on devrait se concentrer. On devrait travailler pour matérialiser la création de l'emploi, mais nous sommes peut-être ailleurs concentrés à autre chose. C'est ça mon plus grand problème. Je voudrais en appeler à la conscience pour qu'on se passe de certaines réalités, parce que si on se pose aujourd'hui la question, M. Marcel, tous ceux qui se sont déplacés, tous ceux qui ont participé, combien d'argent a été mis en jeu pour ces Katanga Business Mining, et si cet argent devrait mise dans une structure, devrait être mis dans une structure pour que on appuie sans gêne pour commencer les activités, par exemple. On appuie peut-être deux mamans. Nous, on a commencé avec le maigre moyen pour appuyer 50 par 50 par 50. Aujourd'hui, on est à peu près à 1000 mamans qui font des activités génératrices de revenus avec le peu d'argent. D'ailleurs, je peux vous révéler combien on met à 50 mamans. On met tout simplement $500. Et on le fait chaque trimestre. On sélectionne 50 mamans.
$500 pour des petites activités. Bon, ça, c'est un individu. Mais les gouvernements pouvaient, parce que les gouvernements, c'est les gouvernements, pouvaient toujours développer ces mêmes, cette façon de faire, parce que lorsqu'on parle de la bonne politique économique ou lorsqu'on parle d'aide financière, c'est aussi dans ce sens-là. Si on n'a pas de banque, mais on peut avoir des structures qui accompagnent ou qui encouragent la création d'emplois.
Alors, parler un peu de l'artisanat, on sait également qu'il y a beaucoup des Congolais, surtout des jeunes, qui sont dans le domaine, en tout cas, de l'artisanat pour ce qui est du secteur minier. Est-ce que vous pensez, là également, il y a moyen de mieux les encadrer, de manière à ce que ces jeunes puissent quand même se retrouver?
Vous savez, l'encadrement du gouvernement serait la meilleure des choses pour promouvoir l'emploi. C'est possible. On peut promouvoir les coopératives. Par exemple, lorsque nous parlons du socle 2, les mesures directes de soutien à l'emploi, il y a tout ça, la création des coopératives. Pourquoi on ne peut pas mettre tous ces jeunes qui sont dans les secteurs miniers en coopérative et les accompagner? Aujourd'hui, le plus grand problème, c'est que dans notre pays, pour le petit et moyenne entreprise, quelqu'un peut commencer une petite activité, vous vous rendrez compte que c'est tous les services qui viennent contrôler. Il y aura peut-être même le PME qui devrait accompagner ou soutenir ces entrepreneurs,
les petites et moyennes entreprises,
mais qui viendront tout simplement, au lieu d'accompagner, mais contrôler. Qu'est-ce que vous avez fait, tout ça, et des taxes, des demandes. Après cela, vous allez peut-être trouver, l'économie va venir, vous allez trouver, peut-être l'industrie va aussi venir pour dire non, vous avez des tanks ici, il faut la métrologie, taxes métrologiques, ceci et cela. Et tout ça, ça tue. Vous pouvez regarder, j'étais un coup d'œil, par exemple, à l'ANAPI, la structure qui a été créée pour améliorer les climats d'affaires. Mais allez-y là-bas, si vous avez une petite activité, je crois des 100 000, 200 000, pour voir si vous aurez l'agrément et être exempté de certaines taxes. Non, c'est peut-être des grands là qui sont à mesure de donner d'abord, je ne sais pas moi, les frais des facilitations pour obtenir l'agrément. Qui obtiennent ces agréments là? Peut-être 2-3, je ne sais même peut-être pas 0. Des structures locaux qui ont réussi à avoir ou à obtenir ces agréments-là pour se voir être allégés sur le plan fiscal. Donc c'est tout ça. On devrait vraiment, lorsqu'on parle de l'encadrement du secteur privé, de l'encadrement de jeunes qui sont dans les secteurs miniers, c'est savoir qu'est-ce qui leur manque, qu'est-ce qu'on peut leur apporter pour qu'ils développent leur passion. Parce que lorsqu'ils sont dans cette activité-là, c'est-à-dire c'est ça même la passion qu'ils ont.
Oui.
Alors, il faudrait qu'on les encourage. Pour les encourager, il faut connaître c'est quoi qu'ils ont comme difficulté. Est-ce que nous avions des structures pour faire tout ça? Peut-être oui, mais est-ce qu'ils le font? Par exemple, j'ai parlé ici de petites et moyennes entreprises. Il y a des divisions dans des territoires ou dans des provinces. Mais est-ce qu'ils se donnent cette responsabilité d'être en contact, de pouvoir discuter même? On devrait peut-être faire ces forums pour savoir c'est quoi les difficultés qu'a ces jeunes ou ces mamans qui sont à côté des exploitants miniers, tout ça. Mais peut-être on est là pour discuter d'autres sujets. Et comme je le disais, ça se résume seulement à des contacts qu'on s'échange.
Donc créer le réseautage.
Créer le réseautage. Parce que si vous posez la question aujourd'hui, on est au sixième, on parle des sixièmes,
de la
sixième édition. Et combien de résolutions depuis la première édition ont été mises en application? Parce que on ne devra pas rester sur la théorie et continuer à parler, nous asseoir, on dépense des millions. L'année prochaine, on s'assoit, on dépense des millions. Mais on doit passer à des actes concrète.
Voilà, on revient à vous, honorable Jethro Muyombi. On va ouvrir le standard. Il y a déjà deux auditeurs qui aiment intervenir. Nous avons Georges Kilangalanga, qui nous appelle depuis Bunyanitouri aussi. Maître Patrick Odia, qui est à Lubumbashi. Bienvenue. Si vous nous rejoignez sur la fréquence de la paix, c'est votre magazine des champs citoyens. Parole aux auditeurs. Nous parlons de l'apport du secteur minier dans la création d'emplois des jeunes. Si vous voulez intervenir, composez le 09-76-80-79.
Parole aux auditeurs.
Nous avons déjà en ligne Georges Kilangalanga qui nous appelle depuis Bounia. Georges, vous avez la parole.
Oui, bonjour, bonjour Monsieur Marcel, bonjour à l'invité, bonjour aux auditeurs de la radio Kati. Nous saluons la tenue de la 6e édition du Forum économique Katanga Business Meeting. Et nous encourageons cette plateforme de réflexion qui questionne. Mais nous avons voulu à notre niveau que les recommandations, parce qu'il s'agit ici d'une question de sensibilité politique. Il faut que les recommandations qui sortent de tous ces forums soient mises en application. Ça serait bien. Par ailleurs, l'apport du secteur minier dans la création des emplois des jeunes en République démocratique du Congo, selon nous, est à géométrie variable. Ça dépend des milieux géographiques. Dans les Katanga, les réalités du Katanga ne sont pas les mêmes que dans la partie est ou dans la partie centre du pays. Ce sont des réalités qui sont totalement différentes. Si aussi, au Katanga, il y a des grandes entreprises minières qui engagent certains jeunes dans le reste du pays, ici, nous vivons l'illégalité. Alors que les minéraux qui sont dans les parties centre et est sont facilement exploitables et ils sont facilement également dissimulables, on assiste à une illégalité sans précédent. Ici, on a des permis de recherche, des permis d'exploitation, on donne des permis de recherche. Et directement, on passe à l'exploitation sans respecter les conditions. Et la contrebande et l'insécurité, tout ça vient flouer l'exploitation minière. Et au lieu que cette exploitation crée des emplois, cette exploitation devient encore un problème pour la population locale. Et ce qui encourage tout ça, c'est l'État, parce que tous les Chinois qui sont dans nos villages ici, qui sont à Djougou, qui sont à Banalia, partout là, tous les Chinois ont leur parapluie soit à l'Assemblée nationale, soit dans des ministères, soit dans des cabinets politiques, soit dans des familles d'eux. Et avec cette allure, il n'y a pas d'emplois qui seront créés. L'insécurité, lorsque les communautés locales se sentent menacées par des exploitants qui ne sont pas d'abord locaux et qui viennent prendre leur richesse et s'en aller, qu'est-ce qu'ils font? Ils créent des groupes armés et ils attaquent ces exploitants. Et c'est comme ça que les groupes armés naissent, renaissent, d'autres partent, les autres reviennent, ainsi de suite. On est pratiquement dans un cercle, infernal. L'État doit prendre ses responsabilités. Le pays a des ressources minières importantes. Et ça, c'est notre chance. C'est la chance qui descend. Mais nous ne pouvons pas vivre dans une malédiction parce qu'on a des ressources minières.
Ouais. Merci Georges Kilangalanga. Alors, pour vous, l'État, allez-y, vous avez quelque chose à ajouter, allez-y rapidement, oui.
J'étais en train de finir qu'on peut organiser des forums. S'il n'y a pas de sensibilité politique, on reste à l'état actuel, je pense qu'il n'y aura pas de solution. Les numéros continueront à produire des problèmes au lieu de nous apporter des solutions.
Voilà, vous avez dit que l'État doit prendre ses responsabilités. C'est vrai également que nos richesses minières, les richesses minières du pays sont à la base de tout ce qu'il y a comme conflit du côté de l'Est de la RDC. Mais vous estimez qu'il revient à l'État de prendre ses responsabilités. Et vous avez parlé de la malédiction. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas trop qu'on parle de la malédiction. C'est plutôt aux Congolais de prendre leurs responsabilités, surtout aux dirigeants, afin que tout ce qui doit être fait dans les sens d'aider ces pays à se développer, puisse être fait comme ça se passe dans d'autres pays à travers le monde. Merci, Georges Kilangalanga, d'avoir appelé depuis Bounia. Maître Patrick Odia, vous êtes à Lubumbashi, on vous écoute.
Bonjour, Marcel. Bonjour, l'honorable Jethro Muyombi, merci de m'associer à ce niveau du débat. De Lubumbashi, il connaît beaucoup de défis. Marcel, le secteur minier joue un rôle central dans l'économie de la RDC. Tant en termes de création d'emplois que des générations de revenus pour l'État. sur le plan de la création d'emplois, la contribution de l'emploi, lorsque j'ai consulté les médias Zoom Echo et aussi cette cette procédée, en 2021, par exemple, Marcel, les secteurs miniers représentaient environ 24% de la main-d'œuvre employée en RDC. 24%. À peu près un quart des emplois formels du pays. Or, les mines constituent presque l'économie centrale. Économie centrale. Mais si les mines elles-mêmes génèrent 24% des emplois formels, alors les secteurs informels pourraient produire combien? Et cette proportion est restée relativement stable jusqu'en 2024. Ça, ça confirme, c'est confirmé par l'ITIE, qui est un organisme également qui milite dans ce domaine également. Mais les secteurs miniers artisanaux, Marcel, bien que souvent informels, emploient généralement un nombre significatif de personnes. En 2021, par exemple, nous avons 46 000 travailleurs qui étaient actifs dans les sites d'exploitation régionale reconnus, principalement dans les provinces du Haut-Katanga et l'Orlab. Ces emplois, bien que précaires, sont essentiels pour de nombreuses communautés locales également. Et ne parlons pas en termes de la participation également des femmes passantes. En 2021, nous avons eu également 13% des femmes qui ont été engagées sur le plan formel également. Il y a quand même des significations, hein, qui y a quand même des avancées qui sont à louer, mais qui restent du moins insignifiantes, Marcel. Mais sur le plan économique, toute la création d'emplois, Marcel, le secteur minier était un pilier des finances publiques, je l'ai dit. Mais il y a des défis majeurs. Premièrement, par exemple, c'est la gouvernance déficiente qui permet à ce que nous ne puissions pas aussi quitter de 24 jusqu'à peut-être 70 quelques créations d'emplois sur le plan formel. Il y a d'abord la gouvernance déficiente. Vous avez la répartition de l'utilisation des revenus miniers entre l'État central. L'honorable, vous êtes député, vous le savez, il y a un écart pas compréhensible sur la répartition entre les gouvernements centraux, les provinces et les ETD. Honorable Muyombi, vous connaissez, vous êtes ici, vous connaissez par exemple dans le Haut-Katanga, il y a certaines communes qui ne gèrent pas les redevances minières par exemple. Et pourtant, au regard de la loi ou du code minier également, les provinces et les entités territoriales décentralisées sont autonomes sur le plan financier et puis gèrent ou doivent gérer les redevances minières. Et pour ne pas citer la commune de Chitourou, par exemple, la Likasi, ma commune, par exemple, natif, là où je suis né. Et si vous prenez également la commune, la chefferie de Bayeke, il y a autant, la commune de Fungurume également. Donc, il y a autant des entités qui ne bénéficient pas de leur autonomie financière. Et pourtant, la loi est là. Question. Vous, en tant que député, quel mécanisme vous prévoyez pour interpeller ne fût-ce que le ministre des Mines, qui peut également donner, en termes de collaboration avec le gouverneur, pour expliquer pourquoi ces dispositions ne sont pas respecté. Parce que vous le savez, si cette gouvernance minière de la redevance minière est donnée comme il se doit, ça pourrait permettre à ce que les communautés locales également profitent en créant des artisanats ou des artisans d'exploitation artisanale reconnue et cela échapperait ou cela profiterait à l'État pour pouvoir bénéficier des taxes et autres. Mais lorsque nous restons dans l'artisanat non reconnu, l'État échappe et il y a beaucoup de millions qui échappent également. Et aussi, enfin, Marcel, je voulais citer, parlant des inégalités sociales, Marcel. Honorable, le sait bien. Je sais qu'il est l'autorité budgétaire, il ne pourrait pas le dire, pas également le contraire. Bref, il faut encourager la formalisation de l'artisanat minier, Marcel. C'est très important pour contribuer à la création d'emplois. Beaucoup de nous, d'entre nous, évoluent dans les secteurs informels non reconnus par l'État. Mais si quand même on permet par des mécanismes, par des lois, qui peut permettre à encourager de créer au moins des structures, des coopératives minières, ça pourrait non seulement profiter à l'État en termes de taxes et impôts, mais aussi contribuer à l'emploi ou à la création d'emplois un peu. Voilà un peu la responsabilité partagée entre les gouverneurs des provinces, de Lualaba, du Haut-Katanga, mais aussi le gouvernement central qui ne permettent pas aux ETD de pouvoir gérer leurs ressources.
Voilà, merci Maître Patrick Odia. Vous avez insisté sur la formalisation, en tout cas, de secteurs informels et également la redevance minière qui peuvent constituer vraiment des atouts importants pour la création d'emplois chez les jeunes. Notre invité, l'honorable Jethro Muyombi, il va commenter là-dessus. Merci Maître Patrick Odia d'avoir appelé depuis le Lubumbashi. On va écouter cette fois-ci Christian Kassessé qui nous appelle depuis Kampala en Ouganda. Christian Kassessé, vous êtes en ligne depuis Kampala en Ouganda?
Oui, bonjour cher Marcel, mes salutations également à l'honorable qui est notre invité du jour. Je voudrais d'abord réagir à ce qui concerne l'organisation du Forum Business Mining Katanga, du Katanga, pour dire qu'en réalité, d'abord, les résolutions ici de ces forums-là sont sans effet, dans la mesure où il n'y a aucun cadre juridique qui encadre cela. Et que donc, même si les panélistes ou ceux qui ont participé à ces forums-là n'arrivent pas à mettre en œuvre leurs conclusions ou résolutions, selon que je peux les appeler ainsi, ils ne risquent aucune contrainte juridique ou sanction. Néanmoins, je voudrais dire que, en gros, aujourd'hui, la peau du secteur minier, à ce qui concerne l'emploi des jeunes en RDC, demeure faible. Pourquoi? Tout simplement parce que les législations à la matière ne sont pas respectées. Ici, je vois respectivement la législation en matière minière ici qui est mise en œuvre par le code minier congolais de 2002 tel que modifié en 2018, mais également aussi le code du travail congolais qui organise tout ce qu'il y a comme le travail. Et donc ici, je voudrais démontrer qu'à ce qui concerne le code minier, les non-respect de cette loi-là réside d'où? D'abord, vous verrez qu'il y a l'exploitation artisanale qui est dévolue uniquement aux citoyens congolais ou, si vous le voulez, à la main des vrais congolais ici, selon qu'ils sont affiliés dans une coopérative minière. Aujourd'hui, vous verrez qu'il y a beaucoup d'étrangers qui, aujourd'hui, inondent ces secteurs-là pourtant réservés uniquement aux citoyens congolais. Dès lors que ces citoyens congolais seraient finalement déjà victimes de ces respects de la loi, je crois qu'à ce moment-là, il n'y a plus lieu de pouvoir espérer à une rétribution équitable des secteurs miniers par rapport aux Congolais. Mais aussi, il faut le dire qu'il y a, par exemple, aussi les mécanismes de financement des projets de développement local qui devraient être l'effet des sociétés minières vis-à-vis des communautés locales ici, qui seraient au terme de l'article 285 de la loi portant code minier congolais, la société minière devrait affecter 0,3% des montants représentant les chiffres d'affaires de cette société-là au projet de développement communautaire. Ce qui faudrait à ce que, indirectement, la communauté locale pouvait s'organiser à gérer ces fonds-là et sûrement s'éclairer de l'emploi. Mais dans les faits, il y a un problème de respect de cette règle également. Voilà, alors, merci. Il faut aussi y aller, comme on le disait, oui. Les codes du travail aujourd'hui congolais qui se retrouvent torpillés dans la plupart des cas d'ailleurs par nos autorités publiques qui ont la charge de pouvoir inspecter ou faire l'inspection des respects des règles relevant du code du travail. Pourquoi je dis? Parce que le travail en RDC est réservé d'abord à la main d'œuvre nationale. Mais dans la pratique, vous verrez qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'étrangers qui viennent concurrencer la main d'œuvre nationale et cela est consacré par l'impunité de nos autorités publiques qui ne font aucun suivi pour faire respecter les règles
Christian Cassissé, on doit progresser, on a compris pour vous, il faut absolument respecter les codes miniers et surtout toutes ces entreprises minières qui travaillent sur les sites miniers doivent respecter ce code, notamment pour ce qui est des projets, des développements qui peuvent aider à la création d'emplois des jeunes. Merci Christian Cassissé depuis Kampala. Nougano revient ici au pays, en RDC, pour écouter Roger Marcel qui nous appelle depuis Kinshasa. Roger Marcel, vous avez la parole.
Bonjour cher Marcel, et bonjour à notre invité, et bonjour à tous les auditeurs de la fréquence de la paix. Merci beaucoup pour la thématique du jour. Moi, je pense que avant que Joseph Kabila puisse partir, il nous a laissé un bon code minier. Même son prédécesseur, lorsqu'il est arrivé, il a même apprécié ça. Je pense à un certain jour, quand il était à la loi, il a parlé avec la population, il a dit à la population, je pense qu'on a vraiment un bon code minier, on a des minéraux, que vous, les peuples congolais, vous ne bénéficiez pas. Ce sont les étrangers qui viennent et puis qui gagnent de l'argent, mais vous, vous êtes là, vous ne gagnez pas quelque chose. Moi, j'ai pensé à ce moment-là, en tant que le premier citoyen de la pays, du pays, le président de la République pouvait quand même prendre un peu de bonnes initiatives pour que le peuple congolais s'y retrouve. Il y a aussi autant de questions qu'on se pose. On a le ministère des Mines. Je pense que le ministre des Mines pouvait quand même, dans les 26 provinces, identifier tous les minéraux qui sont dans toutes les 26 provinces. Comme ça, ça pouvait quand même aider le peuple congolais. Parce qu'aujourd'hui, si vous regardez, si on parle beaucoup de minéraux, nous sommes beaucoup, beaucoup focalisés côté Est. Si vous quittez Est, ou bien on parle de Lualaba, ou bien on parle de Lubumbashi, mais dans les 26 provinces, dans chaque province, je pense qu'il y a des minéraux. Des minéraux là qui ne sont pas aussi exploités pour que ce petit peuple puisse s'y retrouver. Je pense que dans notre pays, ce qui compte beaucoup, c'est la volonté. Si nos autorités n'ont pas vraiment la volonté, on aura toujours le temps toujours de faire des forums, de venir toujours discuter, mais en réalité, nous, les peuples congolais, on ne gagne rien. Regardons aujourd'hui, quand j'ai senti un peu l'honorable Augustin Kabuya qui disait à Jean-Marc Kabunda, oui, Jean-Marc Kabunda, il est aussi comme Corneille Nang, c'est un frustré. Parce qu'on a eu à lui ravir même des carrés miniers. Vous pensez qu'on a des autorités et qui se retrouvent, qui ont des carrés miniers, mais le peuple qui sont censés de se retrouver avec ces richesses-là, le peuple ne se retrouve pas.
Voilà, Roger Marcel. Parce que là, vous parlez pas encore de la création d'emplois, vous parlez de comment on gère les secteurs miniers. Mais justement, allez-y rapidement, parlez de la création d'emplois des secteurs miniers. C'est ça qui nous intéresse. Allez-y.
Oui, c'est ça. J'ai dit non, si l'État congolais pouvait prendre des choses avec beaucoup de sincérité, je pense qu'il y aura des emplois.
Voilà, vous revenez sur la volonté politique, s'il vous plaît, c'est bon, Roger Marcel, vous revenez sur la volonté politique, on ne va pas tourner autour du pot, s'il vous plaît, allez, soyez gentil. Merci Roger Marcel, vous avez insisté sur la volonté politique, donc on a compris. Merci Roger Marcel d'avoir appelé des Kinshasa, on va prendre... Pacifique Chocano Destin qui nous appelle depuis Bushumba dans le sud Kivu. Pacifique Chocano, vous êtes en ligne?
Oui, je suis là, Radio Kapi.
Alors parlez-nous du secteur de la création d'emplois dans le secteur minier.
Oui, dans le secteur minier de notre pays, on observe un certain désordre. Non seulement parce qu'il n'y a pas de loi qui ont été votés pour réglementer ce secteur, mais aussi il y a la mauvaise volonté de nos dirigeants. Parce que un peu partout, le secteur minier est devenu politisé. Un peu partout, vous rencontrez des gens qui disent voilà, c'est un carré minier de telle famille et la famille au pouvoir. Là, on engage d'une manière illicite sans tenir compte de la représentativité des jeunes ni de la population locale. Le temps devrait réfléchir et organiser même des états généraux du secteur minier et essayer de réfléchir sur la possibilité de réglementer ce secteur. Parce que les lois sont là, il y a tout ce qu'on a mis comme réglementation, mais qui n'est pas respecté jusque-là. Comment se peut-il que l'endroit où il y a des secteurs, où il y a des gisements miniers, il n'y a pas de route, pas d'accessibilité, mais seulement les gens restent noués dans une misère qu'on ne peut pas expliquer. Je prends l'exemple de Mwenga, où les gens exploitent des minerais il y a autant d'années, mais la population reste toujours pauvre. Est-ce que pendant tout ce temps, il n'y avait pas cette réglementation? Je pense qu'il y en avait, mais il y a sûrement une mauvaise volonté.
Voilà, vous aussi.
On devrait d'abord commencer par assainir ce secteur. Oui, je vous écoute.
Donc vous aussi, vous parlez de la bonne volonté, hein, comme l'a souligné celui qui vous a précédé, Roger Marcel. Hein, il faut de la bonne volonté et également du respect du code minier. Voilà, merci Pacifique Chocano, destin de voir plus depuis Bushumba au sud Kivu.
Honorable Jethro Buyombi, vous avez suivi les uns les autres. La CQ a insisté sur la redevance minière, sur la formalisation du secteur artisanal, notamment pour ce qui est de l'exploitation minière, qui peut également aider à la création d'emplois. Il y a ceux qui pensent absolument qu'il y a également une part de responsabilité, notamment du gouvernement, de l'Assemblée nationale, tout de ceux qui ont une parcelle de pouvoir, qui essaient un peu de ne pas trop s'épancher sur cette question, simplement parce qu'ils constituent des parapluies pour tous ces étrangers qui exploite ces sites miniers. Et également, ce qu'ils pensent également, c'est une question de volonté politique. Honorable Jethro Muyombi, qu'est-ce que vous en dites?
Merci, M. Marcel. Je voudrais remercier tous ceux qui ont intervenu ici. D'abord, si je voudrais commencer par M. Georges Kilanga, Kilanga-Langa, je crois.
Ouais. Oui.
Alors, effectivement, des grandes décisions ne se prennent pas dans des forums. Les grandes décisions ont les endroits naturels où ça doit se prendre pour qu'on commence un nouvel élan de développement. Ça, c'est ce qui est vrai, et c'est ce que je peux dire par rapport à son intervention. Et si je voudrais encore revenir à ce qu'a dit Maître Patrick Odia, c'est vrai, j'ai aussi à consulter ces rapports des FOMINE qui parlent de 24%, mais de la création de l'emploi qu'a apporté le secteur minier. D'ailleurs, pour moi, que je considère être un pourcentage insignifiant, parce que le secteur minier devrait nous apporter plus que ça à cause aussi de sa chaîne logistique. Et surtout si on permettait, comme j'étais en train de le dire, si on encadrait, parce que dans ce que je disais, si on a très bien noté ça, je parlais de mesures directes de soutien d'emploi. Et ça, c'est la responsabilité du gouvernement. C'est la responsabilité du gouvernement. Par là, on sait même évaluer qui sont dans tel secteur dans notre pays, qui font quoi. Les statistiques peuvent nous orienter pour savoir est-ce que l'importation ou l'exportation s'est fait par les nationaux, par les étrangers, comment est-ce qu'on peut booster aussi les nationaux à le faire, et ainsi de suite. C'est dans ce sens-là qu'on créerait assez d'emplois à travers le secteur minier, qui est un don de Dieu pour nous. Alors, lorsque Maître Patrick parlait aussi des mécanismes pour faire respecter la loi, je suis tout à fait d'accord avec lui. D'ailleurs, pour votre information, au niveau du gouvernement, au niveau de l'Assemblée nationale, chaque mercredi, c'est une plénière ou une séance de contrôle parlementaire. C'est-à-dire, on invite différents ministres avec des questions, soit orales avec débat, ou soit des questions orales tout court, ainsi de suite, pour s'informer de ce qui se passe dans leur secteur par rapport au programme du gouvernement présenté lors de l'investiture de ces gouvernements-là. Donc, voilà, je crois que c'est déjà un pas, mais ça ne doit pas s'arrêter seulement par là. Ça doit continuer aussi par lever des consciences, comme nous sommes en train de le faire ici à travers la radio CAPI. L'objectif ici, c'est quoi? C'est rappeler, c'est sensibiliser pour que nous tous, en tant que Congolais, chacun, en ce qui les concerne, prenne sa responsabilité et comprenne que la situation se présente de telle manière et non pas de telle autre. Donc, réellement, il faut encourager les structures informelles, parce qu'il y a aussi beaucoup d'emplois là-bas, d'ailleurs, qui fait perdre même les recettes au gouvernement, donc à notre pays. S'ils sont encadrés, si le secteur informel est aujourd'hui correctement encadré, moi je pense que ça ne va pas bénéficier seulement à l'homme congolais, mais ça va bénéficier même au gouvernement, parce que il y aura la possibilité de capter autant de recettes aussi dans ce secteur-là, d'ailleurs qui est le secteur le plus large. Christian Kassessé, voilà, qui a parlé à partir de l'Ouganda, parle de la manque, du manque de la législation. Moi, je pense que c'est non. Je ne pense pas que ce qui nous manque dans notre pays, c'est l'absence des textes ou des réglementations. Bien sûr, je ne dis pas aussi que tout ce que nous avons nous suffit. Nous devons toujours continuer à améliorer et
à nous adapter par rapport à l'évolution du monde aujourd'hui. Mais la loi existe, comme l'a dit aussi l'autre intervenant, je crois, toujours Christian ou Roger Marcel, quelque chose comme ça, de Kinshasa, oui, qui a parlé du code minier aujourd'hui, qui est le code minier qui a été réformé, qui a été actualisé. C'est un instrument qui nous permet de faire. Moi, je pense que le plus grand problème, monsieur Christian, c'est d'abord la volonté de l'homme congolais. C'est les ressources humaines, c'est la main d'œuvre. Parce que aujourd'hui, nous pensons que tout doit venir peut-être du chef de l'État, mais non, chacun a une responsabilité là où il est. Et j'ai parlé tout à l'heure du ministère de petites et moyennes entreprises, en descendant jusque dans les territoires, vous trouvez des divisions, vous trouvez des services, par exemple. Et si vous prenez des lois créant ces structures-là, vous allez voir la mission qu'ils ont. Je prends par exemple l'exemple, je prends une division ou un ministère de l'urbanisme, je sors un peu du cadre pour dire, c'est un ministère normalement qui devrait nous arranger les villes ou encore les avenues, comment est-ce qu'on construit, ainsi de suite. Mais qu'est-ce que vous trouvez sur terrain aujourd'hui? Ils sont peut-être focus à collecter les taxes qui reviennent à leur secteur, qu'à apporter leur expertise d'urbaniser, par exemple, la ville. C'est ce que nous trouvons même du côté des petites et moyennes entreprises. Vous allez trouver dans la ville, ici, ou même en dehors de la ville, dans des territoires, parce que nous sommes aussi des hommes des terrains, nous sommes partout. Vous trouverez que ces divisions-là sont beaucoup plus concentrées à collecter les taxes qui leur reviennent dans ces secteurs-là, qu'est d'accompagner ou encore de mettre en application toutes, comment je peux dire, tous les termes qui relèvent de leur responsabilité. Donc, je ne pense pas que nous pouvons parler de l'absence de textes ou de lois, mais peut-être de l'absence de la conscience, de l'absence de manque d'applicabilité peut-être des textes que nous avons. Mais je suis tout à fait d'accord que nous devons continuer à faire des réformes pour nous adapter. Et si je vais terminer avec M. Pacifique, je crois, qui nous a aussi parlé de...
Volontiers, hein. Il a insisté également sur il y a pas vraiment de volonté politique aussi.
Ouais, voilà, qui a parlé de la volonté politique, c'est qui est vrai. Et je pense que ça, nous devons le savoir tous. Moi, en tant que député national, je le sais, je dois encore le savoir davantage. Tous les membres du gouvernement doivent le savoir. Le chef de l'État le sait parce qu'il n'a cessé aussi de marteler sur ça. La population est fatiguée. Nous devons, comme je ne cesse de le dire, passer des paroles aux actes. Donc, la population est réellement fatiguée. On ne doit toujours pas continuer à écouter les PV des réunions. Il y a eu tel conseil, on a dit ceci, mais on doit commencer à évaluer les résolutions de tels conseils. Qu'est-ce qui a été mis en application, qu'est-ce qui ne l'a pas été. Et ce qui ne l'a pas été, qui est responsable de ça? Et s'il ne l'a pas fait, pourquoi il ne l'a pas fait? Et si c'est parce qu'il est incapable, on l'enlève. S'il est capable de le faire, mais il a manqué des moyens, qu'on cherche qui devrait lui donner les moyens, qu'on lui donne le moyen pour qu'il fasse ce qu'il doit faire. Donc moi, je crois que c'est à cette étape-là que les choses bloquent. Parce que aujourd'hui, parce que nous parlons ici du forum de Katanga Business, on peut tenir 1000 forums, on peut tenir 1 million de forums, mais si nous ne transformons pas les résolutions de ces forums-là, si nous ne transformons pas tout ce qui existe déjà comme texte en application sur terrain, eh bien, nous allons perdre notre temps pour rien. Nous resterons là en train de nous réunir, de dépenser des milliers d'argent, mais rien ne pourra se faire. Il faudrait qu'on passe à l'acte maintenant.
Bon, c'est ce qui a toujours été décrié dans ce pays par rapport à tout ce qui se tient, comme forum économique ou à états généraux. Bien souvent, les résolutions ne sont pas appliquées. Et vous avez parlé de mesures directes de soutien, d'emploi, notamment dans le secteur artisanat. Donc, vous pensez qu'il faut renforcer, parce qu'il y a ce service d'assistance et d'encadrement des mines artisanales, des petites échelles, hein, au niveau de l'artisanat. Il faut renforcer le travail de ce service. C'est aussi une des solutions.
Ouais, c'est comme ce que nous sommes en train de dire ici. Renforcer, oui, mais il faut aussi bien les encadrer, les contrôler pour qu'ils fassent ce qu'ils doivent faire. Moi, je crois qu'aujourd'hui, nous avons autant de structures créées pour appuyer tout ce que le peuple veut. Mais le problème, ce sont des animateurs, des fois.
Je pense que ce sont les animateurs. Voilà, on va prendre le 3 derniers auditeurs. J'espère qu'avec le temps qui nous reste, ils pourront tous parler. Nous avons Marie-Paul Awan qui nous appelle depuis Kisangani. Franck qui vient en Autriche, blessé, dit, qui est aussi à Kisangani. Marie-Paul Awan, vous avez la parole pour deux minutes. Si vous pouvez nous dire l'essentiel. Allez-y, Marie-Paul.
Oui, bonjour monsieur le journaliste, bonjour à l'invité ainsi qu'à tous les auditeurs de la radio au Capi. Les moins que l'on puisse dire, c'est que il est logique que les acteurs du secteur minier en République démocratique du Congo se réunissent régulièrement justement pour diagnostiquer justement les différents méandres dans ces secteurs-là. Et c'est ce qui vient de faire ce forum économique de Katanga. Alors, bien entendu, vous savez, lorsque ces acteurs-là se réunissent, et comme je l'ai dit, les secteurs miniers de la République démocratique du Congo, c'est un secteur qui attire assez d'attractivité, mais aussi, c'est un secteur qui est en activité parmi les secteurs fiables dans notre pays. Et toutes choses égales par ailleurs, dit-on, mais il y a quand même quelques considérations dont on doit faire dans ces secteurs-là. Et parmi lesquels, il y a d'abord ces vieux problèmes que nous nécessitons de les faire, c'est la monoproduction. Qui handicape bien évidemment ce secteur, mais aussi les désordres d'octroi, bien évidemment, des permis d'exploitation des minéraux qu'on octroie aux gens, mais aussi les acteurs dans ce secteur-là, dans les secteurs miniers, ne tiennent pas réellement compte des différentes résolutions ou des différents problèmes pour que ce secteur-là soit parmi le levier de développement de la RDC. Et on doit aussi noter que l'exploitation des minéraux en RDC, c'est parmi la croisée des chemins des conflits en République démocratique du Congo. Et c'est sur base de cela que nous voyons l'activisme réveil de part et d'autre. Mais aussi, on doit aussi le signifier, ce que c'est l'exploitation des minéraux en République démocratique du Congo relève bel et bien de la théorie de la malédiction des ressources naturelles. Alors, face à tous ces problèmes que je viens d'énumérer de manière laconique, il demeure ça conteste que cet secteur-là n'est pas un secteur qui va certainement booster le développement au contexte de l'exploitation.
Marie-Paul, s'il vous plaît, on a perdu des temps. Retiens, pour vous, il y a les désordres dans ces secteurs. Et voilà pourquoi les choses ne marchent pas. Même pour créer des emplois, ça pose problème. On pourra revenir par rapport à ça. Marie-Paul, désolé, on n'a plus assez de temps. On doit pouvoir revenir sur ça prochainement. Merci d'avoir appelé depuis Kisangani. Franck, vous êtes à Vienne, en Autriche. Je vous accorde deux minutes aussi. Si vous avez quelque chose d'important à ajouter, Franck, par rapport à tout ce qui a été dit avant vous. Allez-y, Franck.
Merci beaucoup. Je ne sais pas vraiment dire, mais pour ceci de notre pays, pour participer. Par rapport à tout ce que l'invité venait de planter comme décor, au regard de tous les arguments évoqués par tous les compatriotes, je peux me résumer en disant il y a seulement la désorganisation totale, il y a le manque de bonne volonté politique, il y a le manque de détermination, et tout cela, c'est le problème de l'égoïsme, et donc encore un problème de l'éducation. Parce que partout dans tous les pays du monde, les emplois pour les citoyens de ces pays doivent se créer sur base d'une bonne organisation juridique et administrative et au regard de toutes les lois en vigueur qui doivent être respectées. Mais dès lors que nous sommes dans un pays où nous avons des lois que nous savons respecter nous-mêmes, et chaque fois quand il y a des opportunités, au lieu de placer les priorités des citoyens congolais au centre, ceux qui doivent défendre les intérêts des citoyens congolais ne font que chercher d'abord à se servir, soit en faisant allégeance aux étrangers ou en plaçant leurs cousins, leurs amis. Mais la conséquence, c'est tout ce que nous sommes en train de vivre là. Il y a maintenant autant de pressions internes, il y a des frustrations qui se créent, et cela entraîne maintenant des instabilités ici et là. Il faut réanalyser tous les problèmes auxquels nous sommes soumis, voir la vraie réalité en face, là où nous sommes nous-mêmes responsables, on va aller chercher des boucs émissaires. Donc, pour créer les emplois, il faut d'abord que les dirigeants congolais comprennent que c'est parmi leurs attributions et obligations régaliennes de pourvoir aux bons emplois pour les citoyens congolais. Voilà, ça ne sert pas de dire qu'on organise des forums dont les clauses ne seront jamais matérialisées, ça ne sert pas de dire que nous avons une législation que nous bafouons nous-mêmes. Donc, il y a encore un problème
de responsabilité politique, de volonté
et du patriotisme.
Merci Franck, on a compris, il faut plus de patriotisme et surtout de responsabilité dans les chefs des dirigeants congolais. Merci Franck, depuis Vienne, on va prendre le tout dernier Blaise Saïd qui est à Kisangani. Blaise Saïd dit, vous avez la parole pour une minute. On a parlé du désordre, on a parlé de manque de volonté, on a parlé de manque d'observation du code minier. Qu'est-ce que vous avez ajouté en une minute? Allez-y Blaise Saïd, vous appelez depuis Kisangani, on vous écoute.
Oui. Oui, merci, cher Marcel. Merci à l'invité. Voilà, cher Marcel, ici, presque mes prédécesseurs ont presque tout balayé. Mais néanmoins, je dois aller tout juste à quelques questions que je vais poser à l'invité. La première question, quel est le pourcentage d'emplois occupés par les jeunes dans le secteur minier congolais? Ça, c'est la première question. La seconde question, quelles sont les principales entreprises minières qui recrutent les jeunes congolais? La troisième question, quels secteurs économiques ont été mis en avant durant cette édition, la sixième édition bien sûr? Et la toute dernière question, quelles retombées économiques immédiates ou à long terme sont attendues après Katanga Business Meeting?
Voilà, merci Blaise Saïdi, l'invité pour avoir... L'invité pour avancer, pour vous dire, parce qu'il ne fait pas partie des organisations hein, de ce forum économique. Merci Blaise Saïd d'avoir appelé depuis Kisangani. J'avais promis de lire une réaction, je le fais quand même rapidement. C'est Baraka Godefroy qui nous dit ceci, il nous écrit depuis Nyakounde à Bounia. Le secteur minier RDC a un énorme potentiel pour créer de l'emploi chez les jeunes, mais malheureusement, son impact reste encore très limité. Trop de jeunes sont laissés de côté, faute de formation adaptée ou d'accès aux opportunités. Ce que nous attendons, ce sont des actions concrètes, ce sont des formations dans les zones minières, un vrai partenariat public-privé pour intégrer les jeunes et la création d'une banque de développement pour soutenir les projets des jeunes. Voilà, ça c'est Baraka Godefroy, étudiant à l'ISTEM Nyakounde à Bounia. Honorable, on va conclure avec vous par rapport à ces sujets.
Merci beaucoup, M. Marcel. D'abord, il faut dire que, et si je préfère bien commencer par M. Blaise, qui est le dernier, et vous l'avez déjà dit, je ne fais pas partie des organisateurs, pour donner les résultats attendus après ces forums. S'il faut savoir les secteurs miniers qui recrutent les jeunes, bon, ça c'est encore un problème qu'il faut voir avec peut-être les statistiques devraient nous venir de ceux qui gèrent ces secteurs miniers. Je ne suis pas approché à eux, mais je vais essayer de voir. Alors, le pourcentage d'emploi, je vais aller rapidement pour dire que Monsieur Franck et même Monsieur Paul, Monsieur Marie-Paul, on dit la même chose. Nous avons besoin de la prise de conscience tous, même si le gouvernement doit aussi encadrer les jeunes et nous tous ici. Comme je l'ai disais l'autre fois, nous devons d'abord avoir la volonté et l'idée de commencer quelque chose pour que lorsque ceux-là qui doivent prendre conscience vont réellement prendre conscience, qu'ils nous trouvent prêts pour être accompagnés, pour être assistés. Donc ça aussi c'est important, mais je pense que la prise de conscience serait la chose la plus importante dont nous avons besoin tous de la part du gouvernement pour que nous puissions passer à des événements qui se passent par-ci par-là, qui ont des caractères budgétivore et nous voulons passer à des actes concrets. Au lieu peut-être de dépenser ici, dépensons là-bas pour promouvoir et créer l'emploi.
Merci beaucoup honorable Jethro Muyombi, député national initiateur des projets d'encadrement des jeunes. Merci d'avoir été des nôtres. C'est un plaisir de vous retrouver. On espère c'est pas la dernière fois.
Je vous remercie, M. Marcel.
Voilà, fin de ce numéro de Parole aux auditeurs de ce jour. Merci à toute l'équipe de production d'Aps Vita, Julie Feza, Bogona, Gloria Lutula et Nelson Nyombo Micro, c'était Marcel Gombal. À très bientôt.